religion du monde, Geneviève Delrue.
Fratelli e sorelle, mes très chers frères et sœurs, à 21h37, notre très aimé Saint-Père Jean-Paul II a été rappelé dans la maison du Père. Prions pour lui.
Le souverain pontife s'est éteint à 21h37 ce samedi soir.
A un amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II s'éteignait. Ses funérailles, 6 jours plus tard, furent un événement mondial, rassemblant à Rome, aux côtés de présidents et de têtes couronnées, plus d'un million de personnes. Un géant du XXe siècle, un des tombeurs du communisme, le pape globetrotteur, au charisme exceptionnel qui avait su rassembler les foules, quittait la scène. Béatifié le 1er mai 2011, il sera canonisé aux côtés du pape Jean XXIII le 27 avril 2014 par le pape François. Ainsi, Jean-Paul II devenait Saint Jean-Paul II au terme d'une procédure express qui, à côté de l'indéniable stature politique et des gestes prophétiques posés notamment à l'égard du monde juif, suscita chez certains observateurs de la vie de l'Église un malaise, voire une nette désapprobation. Ce fut le cas pour Christine Pedotti, qui signe chez Albin Michel avec Anthony Favier « L'ombre du Saint ». Christine Pedotti, en ligne de Normandie, est notre invitée. Bonjour Christine Pedotti.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Témoignages Chrétiens. Vous êtes connue pour votre engagement en faveur de la place des femmes et des laïcs au sein de l'Église, ainsi que pour l'application des intuitions du Concile Vatican II. Vous êtes auteur de nombreux livres, parmi les derniers « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» sur la crise des abus sexuels au sein de l'Église. Anthony Favier, qui vous a accompagné dans la rédaction de ce livre, est lui un historien, spécialiste du catholicisme contemporain. Il est également l'ancien président de l'association chrétienne David et Jonathan, qui regroupe des hommes et des femmes homosexuels en demande de spiritualité. Alors, une première question, Christine Pedotti. Vous parlez d'entrée de jeu de droit d'inventaire. Alors, pourquoi ce mot, droit d'inventaire? Est-ce que c'est parce que c'est difficile de déboulonner en quelque sorte une statue?
C'est évidemment un immense personnage auquel on a dédié quelques longs mois de travail, qui a fasciné plein de gens et qui encore aujourd'hui, d'une certaine façon, surplombe le paysage du catholicisme. Donc, d'une certaine façon, et d'ailleurs c'est ce que celui qui va devenir son successeur dit pendant ses obsèques, il n'est pas temps de faire le bilan du pontificat, et il dit ça pendant les obsèques. Et puis finalement, ce bilan du pontificat, on ne l'a pas fait parce que on a canonisé l'homme pour des raisons de piété, hein, c'est toujours pour ça qu'on canonise les gens, pas pour leur action politique, et on n'a pas fait de bilan du pontificat. On est 15 ans plus tard, et évidemment, il y a quand même une chose qui, d'une certaine façon, crève les yeux, c'est que l'Église catholique est dans une crise extrêmement importante, et donc la question se pose, est-ce qu'il y a un rapport entre ce très long et très brillant pontificat et la crise dans laquelle on est? C'est la question qu'on s'est posée.
C'est la raison pour laquelle vous avez attendu aussi 15 ans. Il fallait cette crise pour effectivement faire ce bilan.
De fait, moi, beaucoup de choses m'ont chiffonné, si j'ose dire, dans le pontificat de Jean-Paul II, en cours de route. Mais d'une certaine façon, quand on est en train de vivre l'événement, on n'est jamais très sûr qu'on n'est pas en train de le juger à l'aune de nos bons ou mauvais sentiments. Beaucoup de gens ont été fascinés par la personnalité de Jean-Paul II. Il se trouve que moi, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Beaucoup de gens ont été extrêmement irrités. Mais l'irritation n'est pas un critère d'analyse et d'intelligence. Donc, au fond, il fallait quand même qu'il se passe un peu de temps pour qu'on puisse ressaisir les éléments de ce très long règne et puis qu'on regarde un peu comment tout ça s'agence. Et de fait, ce qu'on y a trouvé, Anthony Favier et moi, c'est d'abord une immense cohérence. Donc ça, c'est une première chose. Bon. Ensuite, cette cohérence, on a regardé sur quoi elle était appuyée et on a essayé de regarder en quoi elle pouvait avoir des conséquences sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Alors, quelques mots encore, Christine Pedotti, sur la canonisation du pape Jean-Paul II. Vous évoquez ce jour-là le visage fermé du pape François et vous dites que finalement, le santo subito qu'on a entendu le jour des funérailles, eh bien, il a été un petit peu monté en sauce, en quelque sorte, et que ça venait de quelques groupes qui avaient largement soutenu le pape Jean-Paul II et que le pape Jean-Paul II avait également de son côté soutenu. On pense par exemple aux Focolari ou aux Légionnaires du Christ. Christine Pedotti.
Alors, de fait, sur la tête de François, le pape, pendant la canonisation, c'est un témoignage direct. Moi, j'étais au tout premier rang, je voyais sa tête et j'étais stupéfaite de ce visage incroyablement fermé. Pour un jour qui aurait dû être un jour de joie et de jubilation. Et d'ailleurs, j'étais frappée de voir à quel point il n'y avait pas un mot personnel de sa part sur ce prédécesseur qu'il canonisait.
Il était contraint, en quelque sorte, selon vous.
Oui, d'ailleurs, c'était extrêmement frappant, puisque quand la canonisation a été achevée et qu'il est descendu vers la foule pour saluer, etc., tout d'un coup, cet homme était devenu souriant, lumineux, alors que pendant toute la célébration, il avait un visage de marbre. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, beaucoup plus frappé parce que j'étais là physiquement à quelques mètres, et pas du tout à la télévision. Enfin, là, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors, effectivement, moi, je n'étais pas, en revanche, sur la place Saint-Pierre le jour des obsèques, mais de nombreux témoignages de gens qui y étaient, de journalistes, m'ont certifié que les grands cris de Santo Subito, c'était pas l'unanimité de la place. Et que c'était bien des groupes qui le demandaient. Alors évidemment, les caméras du monde entier se sont tournées vers ces groupes, n'est-ce pas ? J'ai encore le souvenir d'avoir évoqué cette question avec Henri Tinck, hein, qui a été si longtemps un commentateur, le journaliste religieux du Monde, et qui lui-même était très impressionné par la personnalité de Jean-Paul II, qui disait que non, sur la place Saint-Pierre ce jour-là, la plupart des commentateurs religieux n'ont pas entendu le Santo Subito, ceux qui étaient physiquement sur la place. Donc il y a eu une demande par un certain nombre de groupes, et c'est intéressant de regarder d'ailleurs quels sont ces groupes qui ont réclamé cette canonisation immédiate, entre autres les Légionnaires du Christ, de sinistre mémoire, puisqu'on va découvrir quelques mois après la mort de Jean-Paul II les effroyables turpitudes de leur fondateur.
Effectivement, le Massiel.
Oui.
Ces personnes qui soutiennent, ces groupes qui soutiennent donc la canonisation à venir de Jean-Paul II appartiennent à la reconquête catholique, dites-vous, que le pape Jean-Paul II, dès son arrivée à Rome, en temps mené.
Oui. Alors, ça mérite qu'on revienne à la situation de l'Église quand Jean-Paul II est élu.
En 1978, donc.
Voilà. On est 13 années après la fin du Concile, c'est-à-dire finalement très peu de temps avant la fin du Concile. Le pontificat de Paul VI a été douloureux vers sa fin parce que le pape est malade. Je dirais l'effervescence des sociétés, principalement occidentales, post-68-70, dans lesquelles il y a une grande émancipation sur une grande libération, une libération des femmes, une grande émancipation sur les questions sexuelles, mais aussi sur les questions d'autorité. Hein, c'est la 68, ça se passe pas seulement en France, ça se passe dans le monde entier, et c'est aussi une révolte contre, c'est une révolte culturelle contre les anciennes habitudes, contre le mandarinat dans les universités, contre ces phénomènes d'autorité, c'est comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et ça frappe l'Église aussi, qui est en même temps en train de vivre les conséquences du Concile, dans lequel on fait une mise à jour pour être plus à l'écoute de la situation de la société. En 78, tout le monde dit qu'il y a une crise catholique, parce que tout d'un coup, plus personne ne sait très bien où il habite, à cause effectivement des changements que le concile a demandé, mais aussi de l'incroyable effervescence des sociétés. Quand Jean-Paul II arrive, lui, il arrive de la Pologne, qui sans doute a beaucoup moins connu cette effervescence, et c'est un homme avec une grande autorité, un grand esprit de décision. Il est jeune, en pleine forme, dynamique, il est physiquement très impressionnant.
Hein, la tête de Dieu, disait-on à l'époque.
Tout à fait, hein, c'est le cardinal Marty qui va l'appeler comme ça. Mais il impressionne beaucoup parce que tout d'un coup, le pape est présent sur les scènes du monde entier avec son corps, avec cette présence très puissante et ce fameux charisme dont tout le monde parle et qui est sans doute très vrai, hein, puisque je crois que c'est très compliqué, hein, de savoir ce que c'est que le charisme d'une personnalité, cette espèce d'emprise que prend la présence de quelqu'un. Et de toute évidence, Jean-Paul II crée ça à la fois auprès des gens qu'il côtoie de près et auprès des foules qui vont très vite le recevoir. Et Jean-Paul II décide de combattre la crise catholique, qui après tout est son boulot de pape, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les choix qu'il va faire, c'est ça que nous analysons, Anthony Favier et moi, le choix qu'il fait, c'est de remettre en selle un catholicisme de puissance et un pontificat qui est dans la puissance. Et cette puissance, il l'appuie sur une unité très forte autour de lui-même, à Rome, une unité de commandement, d'une certaine façon, autour d'une unité doctrinale, c'est-à-dire que, et ça, c'est les théologiens vont le payer très cher pendant tout le pontificat. Il a d'ailleurs un bras armé qu'il fait venir très rapidement auprès de lui, qui est Joseph Ratzinger, théologien qui va mettre de l'ordre dans l'effervescence théologique de cette époque-là. Il va abandonner, et ça, sans doute, beaucoup de ses électeurs vont au conclave, se seront trompés sur ses intentions, puisque à l'époque, on parle encore beaucoup, beaucoup de collégialité. Et en fait, il va abandonner toute idée de collégialité pour réinstaller une puissance centrale autour de lui-même à Rome. Donc en fait, c'est un général qui met tout le monde en ordre de bataille pour combattre cette crise. Hein. Et ces soldats, ce sont les prêtres.
À vous lire Christine Pedotti, à lire aussi Anthony Favier, Jean-Paul II est le fossoyeur de Vatican II.
Alors, on ne trouvera pas une phrase de Jean-Paul II contre le Concile.
Mais dans les actes.
Mais dans les actes, c'est une évidence.
Oui, il y a probablement une crainte, en fait, aussi. Une crainte de ce monde qui est en train de bouger.
Oui, c'est parce que, en fait, il se passe quand même quelque chose de très compliqué dans ces années-là. C'est que le Concile précède la grande effervescence de nos sociétés. Et d'une certaine façon, nos sociétés courent plus vite que les changements que le Concile veut faire. Du coup, il y a toujours une sorte d'inadéquation. Et c'est ça qui met l'Église en crise. Et qui met d'ailleurs en crise les vocations sacerdotales, les prêtres. Au fond, on dit on va revenir à des certitudes plus mieux connues. Et on va arrêter les éléments plus aventureux qu'on pouvait voir naître un peu partout dans cette effervescence culturelle et spirituelle des années 70.
Précisément, sur la question des prêtres, alors qu'un certain nombre de jeunes quittent les séminaires, Jean-Paul II, lui, entend restaurer la figure sacrée du prêtre. Et ça aura effectivement des conséquences beaucoup plus tard que l'on connaît aujourd'hui. Finalement, cette stratégie n'aura pas fonctionné.
On voit bien que Jean-Paul II, il mise tout sur les prêtres. Moi, j'ai lu avec une très grande attention les 26 lettres aux prêtres qu'il écrit entre 1978 et 2005, puisqu'il en écrit une chaque année pour le Jeudi Saint. Et on voit à quel point c'est une forme d'obsession pour lui de restaurer cette figure du prêtre au centre du catholicisme et du prêtre comme une figure du sacré. Le Concile avait hésité sur la figure du prêtre, entre l'animateur de communauté, celui qui est au milieu des frères et qui en fait fait la communion, et puis celui qui est l'intercesseur du sacré. Et pour Jean-Paul II, le prêtre c'est l'homme de l'Eucharistie, c'est l'homme qui fabrique du sacré. C'est l'homme qui est en figure du Christ, et c'est d'ailleurs lui qui va développer cette figure du prêtre comme alter Christus, un autre Christ. Donc en fait il donne beaucoup beaucoup de lustre à la figure du prêtre, espérant qu'il va recruter par ce biais. Et c'est vrai que les jeunes communautés, les nouvelles communautés qui se forment vont exactement exécuter les intentions de Jean-Paul II en privilégiant des figures de prêtres qui sont des figures très sacrales, très dévotes, très pieuses, très obéissantes, dont les légionnaires du Christ sont une extraordinaire illustration. Et avec les excès, les abus et les terribles dérives qu'on a vues. Nous disons que Jean-Paul II n'a pas voulu voir. Nous disons même une chose qui est un peu rude, c'est que d'une certaine façon, ce pontificat a instauré une raison d'église comme on instaure une raison d'État, parce qu'en fait, il y avait des enjeux plus grands que ceux qui pouvaient être liés à ces excès, à ces abus que je crois le pape Jean-Paul II a considérés comme, entre guillemets, marginaux par rapport aux grands objectifs qu'il s'était fixés.
Ces grands objectifs étant la reconquête catholique.
Bien sûr. Et on voit, au fond, c'est pour ça que finalement, ce premier inventaire, il faut le faire 15 ans plus tard, parce que les choix que fait Jean-Paul II, je veux dire, rien ne permet de dire qu'ils ne sont pas bons au moment où il le fait. Ce sont des choix. Comme tout général en chef qui mène une guerre, il est obligé de faire un certain nombre de choix. C'est seulement rétrospectivement qu'on peut regarder quelles sont les conséquences de ces choix. Et on voit en l'occurrence que cette façon de privilégier et de sacraliser la figure du prêtre a eu des conséquences terribles que le pape François ne cesse de pointer.
À travers effectivement la dénonciation du cléricalisme, ce qu'il appelle le cléricalisme.
Le cléricalisme, c'est entre soi, cette certitude d'être finalement mis à part. Et Jean-Paul II a favorisé ça, de toute évidence.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Christine Pedotti pour le livre Jean-Paul II, L'ombre du Saint, publié chez Albin Michel, avec la collaboration d'Anthony Favier. Vous parlez pour Jean-Paul II d'une foi providentialiste. Et de même pour Jean-Paul II, à vous lire, Christine Pedotti, eh bien, son élection, il la tient de Dieu. En quelque sorte, c'était une forme de prédestination.
Oui, c'est très très impressionnant hein, de lire à quel point, parce que une des choses que nous avons faites, c'est de beaucoup lire Jean-Paul II. Le travail que nous avons fait, Anthony et moi, ça a été d'abord de lire ce que le pape écrit, et écrit en particulier sur lui. Et il est absolument certain d'être le choix de Dieu. Il y a une intention de la Providence, une intention de Dieu sur lui. Ce qui à la fois est une très belle idée au régime spirituel, mais je veux dire, quand on est le patron de tous les catholiques, c'est aussi une façon d'exercer un pouvoir quasiment de droit divin. Hein, c'est la contrepartie de cette vision providentielle. Vision providentielle qu'il va évidemment continuer à avoir après l'attentat du 11 mai 1981, où là, il va être tout à fait convaincu que c'est la Vierge Marie, pour qui il a une dévotion extrême, qui a détourné la balle et qui a sauvé sa vie. Quand on regarde de près la piété et la spiritualité de Jean-Paul II, on voit bien qu'elle est vraiment très profondément mariale, et on est obligé de dire d'abord mariale avant même d'être christique.
Et ceci nous amène, Christine Pedotti, à parler de la femme, de la place de la femme, du rôle de la femme pour Jean-Paul II. Elle doit être mère, épouse.
Un pape qui écrit beaucoup sur les femmes. Alors d'ailleurs, moi je dis les femmes, mais lui il dit toujours la femme. C'est-à-dire que pour lui, il y a une espèce de concept de femme. Hein. La femme, elle a une essence. Et alors c'était très, très intéressant d'aller chercher Alors je vais dire d'une certaine façon, qu'est-ce qui clochait dans cette affaire pour que finalement les femmes ne se retrouvent si peu dans cette femme idéalisée. Mais ce qui est très impressionnant de la part de Jean Poudre, quand on le lit attentivement, c'est que par exemple, quand il parle de l'égalité homme-femme, il parle de l'égale dignité des hommes et des femmes. Et il va spécifier ce que c'est que la dignité de la femme. Et la dignité de la femme, c'est le droit d'être mère. C'est le droit d'être conforme à sa nature profonde, celle que le Créateur lui a donnée. Et cette nature profonde, c'est profondément la maternité. Donc il y a une sorte de triptyque, hein, la Vierge Marie, sa propre mère, son idéal de la femme, qui enferme des vraies femmes dans une sorte de cage qui est cet idéal de maternité, d'offrande de soi dans la vie conjugale et familiale, la vie conjugale étant toujours d'une certaine façon la vie familiale.
Il faut que les Européennes se ressaisissent et redonnent à la famille sa valeur d'élément premier dans la vie sociale. Qu'ils sachent créer les conditions qui favorisent sa stabilité, qui permettent d'y accueillir et d'y donner la vie généreusement. Que l'on reprenne conscience de la dignité et des responsabilités exercées par chaque être humain dans son foyer pour le soutien et le bonheur d'autrui. La famille, comme telle, est un sujet de droit. Cela doit être admis plus nettement.
À cette vision traditionnelle de la femme, Christine Pedotti, s'ajoute celle de la famille, pour Jean-Paul II, donc la famille est la famille classique, traditionnelle, et vous dites finalement qu'il n'a pas compris que la famille avait évolué, qu'aujourd'hui il y a des familles éclatées, qu'il y a même aussi des familles homosexuelles, etc. Bon, sur la famille, bon, vous êtes sévère, hein, Christine Pedotti, en revanche, on peut quand même vous objecter que une famille qui n'est pas décomposée, hein, c'est quand même mieux qu'une famille effectivement éclatée, et que en cela, Jean-Paul II ne peut pas forcément être l'objet de critique.
Non, et d'ailleurs, effectivement, c'est toujours mieux quand les gens s'aiment,
voilà.
dans les couples, dans les familles, évidemment, c'est toujours mieux. Cela dit, il a quand même fait une chose, c'est qu'il a, d'une certaine façon, transformé l'Évangile en prétendant, parce que là aussi, je suis obligée de dire que c'est quand même tirer l'Évangile là où il n'est pas, sur l'idée que l'Évangile serait l'Évangile de la famille, hein, quand il parle de l'Évangile de la vie et qu'il est le pape de la famille. Quand on va lire l'Évangile, il n'y a absolument rien sur la famille. Jésus ne privilégie pas les familles de sang. Jamais. Donc, il y a là, en fait, du côté de Jean-Paul II, l'idée que toujours dans cette reconquête qu'il envisage, la famille chrétienne telle qu'il la voit, qui est une famille avec un père, une mère et des enfants assez nombreux, et puis une femme qui tient son rôle de mère, qui soutient son mari, qui est aimée par lui. Pour Jean-Paul II, c'est très clair, hein, les femmes soutiennent leur mari et elles sont aimées par leur mari. C'est ça son idéal. Et tout ce monde-là fait des beaux enfants chrétiens et ce sont les pierres avec lesquelles on reconstruit une société plus chrétienne. Donc évidemment, je veux dire, tout le monde, on veut tous vivre dans un conte de fées dans lequel on se marie et on a beaucoup d'enfants et on s'aime. Mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Et il y a une complexité des familles, des aventures, etc. Le problème, c'est que ça n'a pas été envisagé par lui.
Ça n'a pas été pensé, oui, c'est ce que vous écrivez.
Ça n'a pas été pensé, oui. Voilà. C'est un point totalement absurde. Et surtout, ce qui est évidemment assez choquant, c'est que tout ce qui n'est pas conforme à sa vision appartient au péché.
Et à la culture de mort aussi.
C'est ça. Alors que nous savons tous, par exemple, sur la question des divorces, moi, je dis toujours que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se remarient à l'issue d'un divorce. Parce que je trouve qu'il faut un sacré courage pour décider, après un échec, de croire de nouveau à l'amour, à la vie. C'est une magnifique énergie vitale. Moi, je trouve qu'on devrait bénir les gens qui ont le courage de recommencer une histoire d'amour après que la première ait échoué. Et pour Jean-Paul II, c'est pas du tout dans cette vision-là qu'il se trouve. Pour lui, il y a l'idée qu'il y a une dimension sacrificielle de ce qu'on est. Ça a une dimension très forte dans sa spiritualité. Le sacrifice, sans doute d'ailleurs issu de ce qu'il a connu dans la Pologne en guerre, et qu'il va poursuivre intimement toute sa vie
jusqu'à la mort,
hein, puisque finalement il va exposer sa propre vie comme un sacrifice. Il va aller jusqu'à le dire, qu'il offre ses souffrances pour la survie du monde. Donc tout ça fait un système. C'est d'ailleurs ça, c'est en cela que le personnage est strictement passionnant. Moi, j'ai été passionnée par le personnage, parce que la cohérence est magnifique.
Quelques mots sur l'homosexualité. Là encore, donc, Jean-Paul II ne veut pas penser l'homosexualité. Et il y a effectivement cette phrase, on s'en souvient, l'homosexualité est objectivement désordonnée. Ce mot désordonné, ça a fait beaucoup de mal.
Oui, ça a fait énormément de mal. Pour Jean-Paul II, ça n'existe pas. Alors c'est très singulier, parce qu'on dit ça n'existe pas, c'est-à-dire si ça existe, c'est lié au monde du mal, de la mort, du péché. Et donc il y a une incapacité à reconnaître une réalité humaine. Et j'ai envie de dire, en plus, une réalité que, pour ce qu'on en sait, il avait sous les yeux, puisque dans son entourage, il y avait des personnes homosexuelles. Mais de toute évidence, pour lui, ça n'existe pas. Et donc, il y a un ordre naturel qui est un ordre idéal dans lequel il y a l'homme et la femme qui s'aiment et qui ont des enfants. Et donc, toute autre forme de vie, de sexualité, et en particulier homosexuelle, c'est absolument inenvisageable, inenvisagé. C'est vraiment, et donc ces phrases terribles sur cette intrinsèquement désordonnée ont été catastrophiques pour tant de... Alors, évidemment, mon co-auteur Anthony Favier, lui, a été le témoin de tant de malheurs de jeunes gens, garçons et filles, honnêtement chrétiens, qui se découvrent homosexuels et pour qui c'est une catastrophe épouvantable, évidemment. Il y a une incapacité à regarder cette réalité, tout occupé qu'il est par son idéal. Et il ne reconnaît pas la réalité des faits, des hommes, des femmes et des sentiments.
Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, Christine Pedotti, sur ce livre qui traite de bien d'autres questions, notamment du dialogue interreligieux, du dialogue avec le judaïsme, etc. Il y aurait effectivement beaucoup à dire aussi sur l'Amérique latine et la théologie de la libération. Bon, il n'est absolument impossible, sur un temps finalement assez court, de parler de l'ensemble de votre livre. Moi, ce que je retiens finalement, c'est effectivement cette question centrale de la reconquête catholique avec, pour faire de Lance, le prêtre, et finalement cette crise aujourd'hui que l'on voit qui est la crise héritée de ce cléricalisme que Jean-Paul II a voulu, et puis aussi la question sexuelle finalement qui est à l'origine d'une partie, j'allais dire, de l'échec de ce pontificat que vous soulevez. Une partie simplement, parce qu'il y a bien sûr des parties lumineuses dans ce pontificat.
Oui, alors sur les parties lumineuses, je veux rendre hommage à Jean-Paul II sur ce qu'il a fait sur le judaïsme, sur lequel, je veux dire, il n'y a rien à dire d'autre que du bien. Et il a fait magnifiquement avancer les choses. Donc je tiens à le dire très très fort là. Mais il reste qu'effectivement, la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui est évidemment liée à cette reconquête de puissance qu'il a voulu mener avec la figure du prêtre, et parce que ça ne marche pas. Et surtout, en fait, quand on hypertrophie cette figure, et qu'on la quand on appelle les prêtres à un trop grand idéal qui n'est pas à la mesure de ce qu'un être humain est capable de vivre, et comme dit Pascal, le philosophe français, qui veut faire l'ange fait la bête, et en fait, on a ces épouvantables excès où on voit que la question de la sexualité, quand en fait elle n'est pas traitée là où elle est, c'est-à-dire comme quelque chose sans doute de plus trivial et de moins idéal que ce que Jean-Paul II a voulu en faire, probablement parce que lui-même le vivait comme ça. Hein. C'est impressionnant de voir à quel point Jean-Paul II est une personnalité profondément sexuée qui n'a pas de problème avec son corps. Mais c'est, au fond, c'est pas parce que lui a su être comme ça que c'est facile pour tout le monde de vivre comme ça, y compris pour tous les prêtres dont il a rêvé. Donc, ce qui nous a frappé, Anthony Favier et moi, dans cette affaire, c'est qu'on voit bien que François, le pape François, a compris où était le problème. Et que d'une certaine façon, le travail que nous avons fait nous a permis de mieux comprendre le pontificat du pape François et ce que le pape François essaie de modifier, c'est précisément, me semble-t-il, les excès dans lesquels le pontificat de Jean-Paul II nous a menés. Donc c'est pas un pontificat. La personnalité est tout aussi intéressante, charismatique et brillante. Mais au fond, le pape François ne recherche pas la puissance pour l'Évangile. Il cherche au contraire une sorte de force intime de la présence, de l'attention. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Il me semble que moi, j'ai mieux compris François en travaillant sur Jean-Paul II.
Je vous remercie, Christine Pedotti. Je rappelle que vous signez avec Anthony Favier, Jean-Paul II, L'ombre du Saint, et c'est aux éditions Albin Michel. Je vous remercie.
Merci, Geneviève.
Les événements des dernières heures m'obligent de m'adresser encore une fois à tous au sujet de notre patrie commune, vous demandant des prières. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au mois de septembre. On ne peut plus faire couler le sang polonais, car trop de sang polonais a été versé au cours de la dernière guerre. Il faut tout faire afin de bâtir l'avenir de la patrie dans la paix. À l'approche du 600e anniversaire de Notre-Dame de Częstochowa, je confie la Pologne et tous mes compatriotes à la Vierge qui nous a été donnée pour notre défense.
Vous écoutez Religion du Monde, nous poursuivons cette émission sur le pape Jean-Paul II à l'occasion de la sortie du livre « À l'ombre du Saint ». Et vous venez d'entendre un son d'archive. Il s'agit de l'extrait de l'allocution de Jean-Paul II à Rome. Le pape réagit à la déclaration de l'état de siège en Pologne le 13 décembre 1981. Avec nous en ligne de Lyon, Bernard Lecomte, grand spécialiste du pape Jean-Paul II. Bernard Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Vous avez couvert le pontificat de Jean-Paul II en tant que grand reporter dans les pays de l'Est. Vous avez consacré au pape polonais plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels la grande biographie, hein, publiée chez Gallimard, collection de poche et donc folio, et puis Le pape qui a vaincu le communisme, publié chez Tempus Perrin. Alors, une première question, Bernard Lecomte. Est-ce que ce livre de Christine Pedotti et d'Anthony Favier, qui est un droit d'inventaire qu'il revendique, est-ce que vous le partagez, vous, ce droit d'inventaire?
Alors moi, je suis le premier à me féliciter de ce droit d'inventaire. Je dirais même qu'il était temps qu'un auteur ou que des auteurs fassent ce droit d'inventaire. Il fallait évidemment laisser passer du temps. Moi, ma biographie, elle date déjà d'une trentaine d'années, vous vous rendez compte. Donc depuis, on a trouvé des choses, les historiens ont travaillé, etc. Et quoi de plus légitime que de reprendre tous ces travaux et puis voilà, de dire ce pontificat qui a duré 27 ans quand même, 27 ans. Évidemment qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans un pontificat de 27 ans. Il y a des ombres et des lumières, et c'est une très bonne chose que Christine Pedotti et Anthony Fabier aient fait ce travail, et je suis très heureux personnellement que ce travail ait été fait par des auteurs qui connaissent la vie de Jean-Paul II, qui s'appuient sur les faits. Je vais vous dire franchement, j'avais très peur que ce soit un pamphlet, vous savez, vite écrit, vite lu, vite oublié. Non, c'est un livre sérieux, documenté, et qui restera, et c'est une très bonne chose.
Est-ce que vous étiez mal à l'aise, Bernard Lecomte, lorsque le pape Jean-Paul II a été proclamé saint?
Alors moi, je n'ai jamais caché ma gêne devant les béatifications et les canonisations de papes en général. Vous savez, quand vous avez eu l'immense honneur de diriger l'Église, est-ce que vraiment il faut derrière devenir un modèle pour les plus jeunes? Être pape, c'est être pape. Qu'il soit saint, ma foi, j'ai beaucoup de respect, évidemment, pour tous ceux qui sont très attachés à ce type de modélisation, voilà, on porte sur les autels des personnalités, mais franchement, quand c'est des papes, c'est pas utile, et quand c'est Jean-Paul II, en plus, c'est un peu rapide. C'est un peu ça, d'ailleurs, qui a énervé un certain nombre de gens, et je trouve que c'était un peu légitime. Pourquoi si tôt un pape qui a eu une telle importance tant d'égards pendant 27 ans, il fallait attendre un peu, il fallait examiner les choses, laisser retomber les rumeurs de l'histoire, etc. Donc je comprends qu'on puisse être agacé par le fait que Jean-Paul II ait été canonisé trop tôt. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est ainsi, c'est pas non plus un drame dans l'histoire de l'Église.
Alors, Christine Pedotti et Anthony Favier ont mis l'accent très nettement sur la nouvelle évangélisation qu'ils appellent la reconquête catholique, menée par Jean-Paul II avec la figure du prêtre qui est sacralisé. Vous avez travaillé davantage, ce qui était normal, en tant que journaliste spécialiste des pays de l'Est, Bernard Lecomte, vous insistez bien sûr sur le pape, l'homme de la chute du communisme. Qu'est-ce qu'il faut retenir?
Vous savez, en 27 ans, il faut en retenir des choses, parce que ce pape qui, en effet, a eu une importance colossale dans l'histoire du communisme, qui a évidemment contribué à la chute du communisme. Personne ne peut nier l'importance qu'il a eue dans ce processus historique. Mais en même temps, ce pape a eu aussi une énorme importance dans le rapprochement entre les chrétiens et les juifs. Ce pape, en inventant les JMJ, a rabiboché l'Église avec la jeunesse du monde. Je veux dire, il a fait des choses absolument extraordinaires. C'est normal d'avoir un petit peu des vues convergentes, divergentes, complémentaires, voire contradictoires de ce pape qui, en 27 ans, je le disais tout à l'heure, n'a pas fait forcément que des choses hyper positives. Il a eu des moments de doute, il a eu des contradictions, il a eu des faiblesses. Je pense par exemple à celle qui vient très vite à l'esprit, qui est sur les affaires sexuelles, sur la famille, cette idée qu'il a eue jusqu'au bout que la contraception était à proscrire. Or, toutes ces idées qui partaient de la pilule n'ont pas résisté à l'épreuve du sida. Là, il ne s'agissait plus de la pilule, il s'agissait du préservatif. On n'était plus dans le chimique, on était dans le prophylactique. Et là, incontestablement, Jean-Paul II a manqué de vision historique. Vous voyez, on peut très légitimement, sur chacun des grands sujets, examiner les choses de façon, encore une fois, parfaitement logique, légitime et pas du tout agressive.
Comment avez-vous lu, Bernard Lecomte, les pages du livre de Christine Pedotti et d'Anthony Favier sur la Pologne et Jean-Paul II?
Deux choses. Sur le pape polonais et sa contribution à la chute du communisme, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une petite chose quand même qui est importante. Dire, comme ça se dit parfois d'ailleurs, que le président américain Reagan a financé Solidarność, etc. Pardon, mais c'est oublier qu'en août 80, quand à la fondation de Solidarność, Reagan n'est encore que gouverneur de Californie. Il n'arrive à la Maison-Blanche qu'en 81, quand Jean-Paul II, depuis 2 ans déjà, a changé la donne internationale. N'ayez pas peur, son voyage triomphal en Pologne en 79, son soutien à Solidarność et aux ouvriers polonais, ses œillades aux autres communautés de l'Est, tout ça, c'est avant Reagan. Donc, voilà, ça c'est un petit point d'histoire que je tiens à souligner. Quant à la Pologne, il est toujours un peu facile de dire, voilà, ce pape, il est trop ceci ou trop cela, sans tenir compte, justement, de sa culture polonaise. On peut considérer qu'il est particulièrement attaché à la vénération de la Vierge Marie. Enfin, il est polonais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En Pologne, c'est comme ça. Le catholicisme autour de Częstochowa, le sanctuaire connu, est très centré sur la Vierge. Vous savez, le pape était polonais. Bon, quand il parle de la nation, quand il parle des juifs ou de l'antisémitisme, quand il parle de la guerre, quand il parle du communisme, quand il parle des droits de l'homme, il sait de quoi il parle. C'est ça, moi, que je retiens de sa polonitude.
À un moment donné, au début du livre d'ailleurs, il est fait allusion assez longuement à l'une des premières messes hein, de Jean-Paul II à Nowa Huta, messe de Noël hein, du 24 décembre 1959, donc dans la banlieue de Cracovie. Et à ce moment-là, Christine Pedotti et Anthony Favier parlent d'une liturgie que le pape célèbre comme un théâtre. Est-ce que vous trouvez que ces mots-là sont durs? Est-ce que, effectivement, à l'époque, il ne fallait pas mettre en scène, en quelque sorte, cette messe pour pouvoir envoyer des messages aux autorités communistes de l'époque qui ne voulaient pas d'église dans cette ville industrielle?
La question est difficile parce que, est-ce que la messe est un théâtre? Est-ce qu'une cérémonie, une liturgie, c'est du théâtre? Toujours plus ou moins. C'est quand même une célébration avec un rituel, avec des gestes, des mots, etc. Vous savez, on peut pas reprocher à Karol Wojtyła d'aimer le théâtre. Bah, j'ai souri en lisant le livre quand les auteurs disent comme l'excellent acteur qu'il aurait aimé être, il joue un rôle, etc. Mais pardon, Karol Wojtyła fut en effet un excellent comédien dans sa jeunesse pendant 10 ans. Tous les témoins de l'époque l'ont confirmé. Alors, oh, qu'il ait eu le sens de la scène, des mots, des silences, c'est un fait, c'est sa culture, c'est pas de la com, c'est pas du théâtre pour faire du théâtre.
Alors, on reste encore dans les pays de l'Est. Dans le livre, il est fait allusion à cette rencontre le 1er décembre 1989 au Vatican entre Mikhail Gorbatchev et le pape Jean-Paul II. Et à ce moment-là, les deux auteurs relèvent que bon, Jean-Paul II, en fait, n'était pas un politique et que finalement, sa résistance, elle était plus culturelle que politique.
Alors ça, c'est vrai jusqu'à son élection. Karol Wojtyła, quand il était en Pologne, sous le régime communiste, n'a jamais voulu s'engager en politique. Il n'aimait pas la politique. Et ça, c'est un fait. Mais ça va changer dans les toutes dernières années à Cracovie, juste avant son élection, parce que tout simplement, le problème des droits de l'homme se pose, les dissidents, la contestation naît en Pologne, il y a un crime épouvantable, la police assassine un jeune type qui s'appelle Pillas, presque sous les fenêtres de l'archevêque, et Wojtyła, à ce moment-là, prend fait et cause pour les droits de l'homme. Là, il entre en politique. C'est pas un hasard, d'ailleurs, si sa première encyclique, dès qu'il est élu, donc encyclique qui va sortir en mars 1979, Redemptor Hominis, porte sur les droits de l'homme. Et il a même, lui, il a dit, je l'ai écrite en polonais à toute vitesse, comme ça, je l'avais dans mon cœur. Jean-Paul II fut un pape politique, incontestablement. Il n'a pas été toute sa vie politique, et c'est ce qui permet d'ailleurs de mieux expliquer pourquoi ça n'est pas un militant politique. On a quelquefois dit de Jean-Paul II que c'était un anticommuniste militant, un croisé de l'anticommunisme. Non, pas du tout. Il a simplement vraiment, au fil de sa vie, découvert ce qui faisait une part de sa pastorale, les droits de l'homme. Ça va devenir fondamental dans tout son pontificat, et c'est ça qui va expliquer toutes ces démarches à l'Est et contre le communisme. Mais encore une fois, il s'agit du fond, c'est pas un militant politique qui est devenu pape, il faut surtout pas penser ça.
Oui, mais cela dit, Christine Pedotti et Anthony Favier disent, voilà, quand le pape Jean-Paul II parle de droits de l'homme, il pense essentiellement à la liberté de culte. Est-ce que vous êtes d'accord? La liberté religieuse?
Alors, tout est dans le « essentiellement ». Jean-Paul II a dit souvent que le premier des droits de l'homme, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté religieuse. Mais la liberté de conscience, c'est pas seulement religieux. Et ça, sur ce plan-là, tous les dissidents, pas du tout catholiques, pas du tout croyants, sont tous d'accord. De Michnik à Solzhenitsyn, de Sakharov à Guérémec, tout le monde a toujours dit le premier des droits de l'homme, c'est la liberté de conscience. Et c'est évidemment une idée très politique, parce que la liberté de conscience entraîne, implique la liberté de circuler, la liberté de parler, la liberté de s'exprimer, de se réunir, etc. Voilà, c'est cette fameuse encyclique Redemptor Hominis qui donne le ton du pontificat. Et elle est sortie 4 mois après l'élection du pape.
Pour terminer, Bernard Lecomte, l'interreligieux et Jean-Paul II et la célèbre rencontre, l'historique rencontre d'Assise en 1986. Là encore, Christine Pedotti et Anthony Favier estiment que finalement, certes, c'était interreligieux, mais que chacun, en réalité, priait dans son coin. Qu'est-ce que vous relevez là?
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les auteurs quand ils disent que la réunion interreligieuse d'Assise était une espèce de reconquête à l'ancienne. Je crois que l'expression, c'est ripolliner en nouvelle évangélisation. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. J'en ai beaucoup parlé, moi, avec le cardinal Etchegaray, que Jean-Paul II avait chargé du dossier. Et la réunion d'Assise, c'était bien une démarche novatrice, généreuse, moderne, qui avait d'ailleurs été critiquée par Ratzinger, par le cardinal Ratzinger, qui trouvait que c'était un peu audacieux. La nouvelle évangélisation, c'est pas une reconquête à la mode espagnole, si vous voulez. C'était tout simplement pour réagir à la déchristianisation de l'Europe chrétienne, qui n'était pas un fantasme, hein.
Quand Christine Pedotti dit qu'effectivement, lire le pontificat de Jean-Paul II, finalement, c'est comprendre aujourd'hui celui de François. Vous partagez cet avis?
Oui, parce que les pontificats se répondent, en effet. Vous savez, tous les pontificats sont différents. Tous les papes sont différents, et pourtant ils dirigent la même Église. C'est simplement que chacun vit son époque. Chaque pape parle à un monde qui n'est plus le monde de son prédécesseur. Et donc, il est obligé de changer son langage. Mais en même temps, il n'est pas question de changer le dogme. C'est toujours la même révélation. Et pour Jean-Paul II, comme pour le pape François, le cœur du métier de pape, c'est quand même d'annoncer l'Évangile. Et ça, si vous voulez, tous les papes, depuis 2000 ans, sont sur ce créneau-là. Alors, qu'il y ait des différences, évidemment, qu'il y ait des différences même assez fortes parfois entre Jean-Paul II et le pape François, certes, mais vous savez, c'est surtout des différences entre le monde de Jean-Paul II et le monde du pape François. Quelles sont ces différences? Parce que le monde, décidément, tourne très vite.
Je vous remercie, Bernard Lecomte. Je rappelle donc que vous avez signé la biographie de Jean-Paul II chez Gallimard et vous avez également publié récemment Jean-Paul II, le pape qui a vaincu le communisme chez Tempus. Je vous remercie. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Laurence Alerno vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. La marche du